Europe 1. Votre matinale info.
Pierre de Villeneau.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1. Tout le monde va bien.
On essaie d'adapter notre organisation et nos capacités d'accueil au fur et à mesure que les patients arrivent. Pour l'instant, on n'est pas en difficulté majeure.
Les hôpitaux ont appris de la première vague. Pour gérer l'afflux de patients Covid, les services se réorganisent. À Lille, le système fonctionne, du moins pour l'instant.
C'est un geste barrière évident, un clic sur Internet plutôt que des heures de queue en magasin depuis le confinement. Le e-commerce n'en finit plus de progresser.
Révéler son homosexualité à ses collègues, ça n'est pas simple et c'est peut-être encore plus compliqué ces dernières années.
France-Portugal, pour faire oublier la finale de foot perdue de l'Euro 2016, les Bleus de Didier Deschamps prennent leur revanche ce soir au Stade de France. Et puis juste après ce journal, le professeur Michael Perromore est mon invité. Il publie « Hôpital, ce que on ne vous a jamais dit ».
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour l'instant, les mesures sanitaires ne semblent pas inverser les courbes. Jour après jour, les records sont battus. Près de 27 000 nouveaux cas ont été détectés dans les dernières 24 heures.
Avec des disparités, évidemment, dans le pays. Ces zones placées en alerte maximale, comme Paris, Lyon, Marseille ou Lille. Lille où les médecins s'organisent pour gérer ces nouveaux cas. Et pour l'instant, ça fonctionne. Reportage sur place de Maximilien Carlier.
L'hôpital de Lille n'est pas saturé. C'est le message qu'a voulu faire passer le CHU. Julien Poissy, médecin réanimateur.
On essaye d'adapter notre organisation et nos capacités d'accueil au fur et à mesure que les patients arrivent. Pour l'instant, on n'est pas en difficulté majeure.
Pas de report des actes médicaux, même si l'idée a été évoquée. Alors bien sûr, il y a des tensions tout de même. À Roubaix, à Tourcoing, afflux de malades Covid. Mais là, ce qui change, c'est que les soignants sont rodés.
Nos services sont mieux préparés.
Frédéric Boiron est directeur général du centre hospitalier de Lille.
Nous avons aussi des équipes médicales et paramédicales qui savent de mieux en mieux prendre en charge ces patients. Mais il faut bien dire pour les hospitaliers et les personnels du système de santé en général qu'ils ont aussi été très sollicités.
Et justement, c'est ça l'inquiétude. Des soignants fatigués, de la première vague, lassés peut-être. Conséquence, 1500 personnes absentes des plannings au CHU.
Le sujet des effectifs est compliqué pour nous, avec effectivement un absentéisme significatif actuellement et qu'on peut comprendre. Donc une vigilance importante pour nous à ne pas mettre de pression inutile sur les personnels.
Et pour les soutenir, ce directeur appelle à une responsabilisation de chacun. Attention aux plus fragiles, les personnes âgées. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et à Nantes, nous l'avons vu au cours de ce 6-9, certains médecins continuent de travailler, certains personnels soignants, alors qu'ils ont le Covid. Voilà, cet hôpital qui explose, cet hôpital et qui se retrouve face à cette vague de Covid, avec les personnels qu'il y a, avec le manque des moyens. Hôpital, ce que on ne vous a jamais dit. Voilà le livre du professeur Michael Perromore, qui est mon invité juste après ce journal. Pendant ce temps, pendant que les médecins gèrent les malades, certaines décisions ne manquent pas d'interroger. Dans le Loiret, par exemple, des département qui, rappelons-le, est placé en alerte. Plusieurs centaines de pasteurs évangéliques se sont réunis hier.
Des pasteurs venus de toute la France et réunis donc à Nevoix dans le Loiret. La préfecture avait donné son autorisation, mais sur place, les habitants et la mairie ont bien du mal à comprendre. Ils ont assisté hier, impuissants, à cet événement dans leur commune. Reportage sur place de Nicolas Feldman.
Quand vous respectez l'ordre, vous respectez Dieu. Le panneau pour indiquer le sens de circulation donne le ton à l'entrée d'un grand chapiteau du gel hydroalcoolique. Près d'un millier de pasteurs suivent le dépouillement des urnes. Tous sont venus élire l'assemblée générale de leur association. Désiré Vermèche arrive de Rouen.
Normalement, ça dure 10 jours. Vous avez des caravanes de partout, que là, notre assemblée générale s'est faite. Le chapiteau va être démonté. On s'est conformé, disons, à toutes les règles qui nous ont été demandées, notamment les règles de distanciation, les règles sanitaires qui permettaient ce rassemblement.
Un rassemblement autorisé par la sous-préfecture parce que non festif et se déroulant sur un terrain privé. Mais un peu plus bas dans le village, la décision passe mal auprès de ses habitants.
On ne comprend pas trop parce qu'on a par exemple, on est un petit village, il y a quand même beaucoup d'anciens. Tous les ans, ils font un dîner en fait des anciens. Et là, en fait, ils n'ont pas pu se réunir dans la salle principale parce que, à cause du Covid.
Deux poids, deux mesures. Voilà, c'est tout.
Deux poids, deux mesures, c'est aussi le sentiment du maire Jean-François Darmois qui ajoute « Je refuse qu'on vienne bientôt me dire qu'un cluster de ma commune a contaminé tout le reste de la France. »
Un reportage à Nevoix dans le Loiret de Nicolas Feldman. Vous l'avez peut-être expérimenté ces dernières semaines. On ne se rue pas dans les magasins. Les galeries commerciales sont de moins en moins fréquentées.
Ben oui, on les a délaissées pendant le confinement au profit du commerce en ligne. Et bien cette habitude se poursuit encore aujourd'hui. Aurélien Fleureau.
Plus 30% pendant le confinement et plus 27% entre le 11 mai et le 6 septembre. Les Français ont donc largement continué à acheter sur Internet, alors pas forcément les mêmes produits. La part de l'alimentaire a baissé au profit de secteurs comme le bricolage, l'électronique et même le textile qui se rattrape depuis quelques semaines, ce qui a automatiquement fait augmenter le panier moyen, plus 16% si l'on ne prend pas en compte l'alimentaire. Et parmi les évolutions marquantes dans nos habitudes, ces nouveaux clients ont privilégié des enseignes connues qu'ils fréquentaient en magasin avant d'acheter en ligne, comme l'a constaté Stéphane Charveria, associé au Boston Consulting Group et spécialiste de la distribution.
Les distributeurs traditionnels ont surperformé pendant le confinement, mais continuent à surperformer et donc finalement à gagner de la part de marché par rapport à ce qu'on appelle les pure players, qui sont donc les acteurs qui ne sont que sur Internet et qui n'ont pas de réseau de magasins.
Ces nouveaux e-consommateurs sont principalement issus de la génération des baby-boomers et de la génération X. Et puis parmi les habitudes qui durent, le drive, qui surtout dans l'alimentaire, est devenu le modèle plébiscité par les Français.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump n'est plus contagieux, c'est son médecin qui le dit. Le président américain, positif au Covid il y a 8 jours, a fait un discours hier devant ses partisans depuis le balcon de la Maison-Blanche. Il se rendra demain en Floride pour un meeting. Et puis dans le Haut Karabakh, les combats se sont poursuivis hier soir malgré le cessez-le-feu. 7 personnes sont mortes dans la nuit selon l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan et Arménie qui se sont mutuellement accusés de violer la trêve.
Nous sommes dimanche et de nombreux catholiques vont à la messe ce matin. Certains participeront à la quête.
Et rarement ce geste n'aura été si important. 30% des fidèles environ ne sont pas retournés à la messe depuis le confinement. Les caisses de l'église se vident. Virginie Rivin, il manque environ 50 millions d'euros.
50 millions d'euros en moins, c'est à peu près 10% du budget annuel de l'Église, un trou qui correspond aux 8 dimanches de quête durant le confinement où l'argent n'a pas pu être collecté, les églises étant fermées. Chaque dimanche, il faut savoir que l'Église collecte 1,5 million sur tout le territoire. Même chose pour tout l'argent versé directement aux prêtres pour célébrer des messes en l'honneur d'un défunt ou pour un baptême ou un mariage. Autant d'argent indispensable pour faire tourner l'Église et ses diocèses partout, comme l'explique Vincent Némon, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Bah ça entraîne une fragilité des comptes, hein, une fragilité des finances. Des prêts ont permis de faire face aux dépenses qu'il fallait absolument assumer pour couvrir différents centres de frais, mais essentiellement les frais courants, c'est-à-dire par exemple les salaires. Il y a des diocèses, vous savez, qui ont des trésoreries assez fragiles et qui avaient besoin de pouvoir passer ce cap parce qu'ils n'avaient plus les rentrées d'argent suffisantes pour payer les prêtres.
Une quinzaine de diocèses sont en difficulté financière actuellement. Tout va donc dépendre des dons à venir en cette fin d'année et surtout du retour des fidèles. On estime qu'ils sont 30% de moins à venir à la messe, chiffre encore plus élevé dans les diocèses où la population catholique est vieillissante.
Explication signée Virginie Riva.
À 8h07, une pause dans ce journal. Dire à ses collègues qu'on est homosexuel, c'est jamais simple. Et c'est peut-être encore pire ces dernières années. De moins en moins de gays sautent le pas. C'est ce qu'on voit juste après une page de publicité.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, c'est un passage redouté, souvent repoussé. Le coming out au travail reste un tabou en 2020.
Cette année, moins de 45% des homos ont osé parler de leur vie privée à leurs collègues. C'est 11 points de moins qu'il y a 2 ans, selon le Boston Consulting Group. En cette journée internationale du coming out, écoutez le témoignage de Florent qui a sauté le pas et qui a dû affronter les remarques.
J'ai eu des expériences où j'étais pas forcément à l'aise pour le dire, et notamment avec mes collègues masculins. Je pense que l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est mon responsable qui m'a offert des préservatifs. Il avait croisé la marche des fiertés, et en fait, il était revenu avec des préservatifs, et en me disant « Bon, je sais que vous êtes en couple, hein, mais vous devez certainement avoir des amis, enfin, comme si du fait que j'étais gay, j'avais forcément, en fait, une liberté sexuelle. » qui est malheureusement très cliché. Suite à cette histoire, ma hiérarchie est revenue vers moi en me disant « Bah en fait, on va vous changer de position géographique pour ne plus que vous soyez en fait en contact direct avec cette personne. » Très honnêtement, je pense que je suis dans un secteur d'activité, dans un secteur géographique qui fait que c'est peut-être plus facile. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça sera toujours un combat de tous les jours d'avoir la même légitimité en fait qu'une personne hétérosexuelle.
Le témoignage de Florent recueilli par Élise dans
Il y a 4 ans, les Bleus s'étaient inclinés 1-0 face au Portugal. Souvenez-vous, c'était en finale de l'Euro. La France retrouve aujourd'hui Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.
Les deux équipes sont leaders de leur groupe en Ligue des Nations et s'affronteront donc ce soir au Stade de France. Les Bleus de Didier Deschamps vont tenter de chasser leurs mauvais souvenirs. Cyril de la Morinerie.
Et la joie portugaise, Ronaldo est allongé sur la pelouse, les bras en croix.
Et quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo en larmes enlacera le trophée. Le Portugal est champion d'Europe et Paul Pogba inconsolable. Le milieu de l'équipe de France n'a pas oublié ce but d'Eder à la 109e minute et cette soirée maudite, il en garde un goût très amer.
C'est vrai que la finale de l'Euro, elle reste toujours là, même si on a pu gagner la Coupe du Monde après ça. Ça nous a forgé. On sait qu'il y a des très très bons joueurs en face, des légendes.
Et cette légende, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo, 35 ans, 101 buts en 166 sélections. En 2016, le quintuple Ballon d'Or était sorti à la 25e minute, assistant du banc de touche au sacre de ses coéquipiers. Ce soir, la superstar du Portugal espère jouer l'ensemble de la rencontre. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, est sur ses gardes.
Ouais, c'est un joueur ultra complet, il est capable de tout faire et forcément lorsqu'il est présent dans l'équipe adverse, ça reste une menace.
Cristiano Ronaldo est une menace mais aussi un modèle, notamment pour Kylian Mbappé. Ce soir, l'attaquant français de 21 ans pourra se mesurer à son idole.
Cyril de la Morinerie, France-Portugal, c'est un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 20h45. Quelques heures plus tôt, si vous voulez passer un dimanche 100% sport, eh bien vous pourrez profiter d'une finale de gala à Roland-Garros. Raphaël Nadal affronte Novak Djokovic.
À suivre en fil rouge également sur Europe 1. De son vivant, Simone de Beauvoir n'a jamais, jamais voulu publier ce récit. Elle le jugeait trop intime. Eh bien, plus de 60 ans après son écriture, ce roman est enfin dévoilé.
Un roman très court dans lequel Simone de Beauvoir y décrit sa relation avec Zaza. Dans les années folles, sa grande amie, peut-être son premier amour, Nicolas Caro nous raconte ses inséparables.
C'est l'histoire d'une amitié passionnée. Simone de Beauvoir, alias Sylvie, dans le livre à 9 ans. C'est la rentrée des classes, elle rencontre André. 9 ans aussi, le double littéraire d'Elisabeth Lacoing, surnommé Zaza. Deux enfants qui se vouvoient. On est dans une institution catholique en 1916. Les deux jeunes filles deviennent amies. Et pour Simone de Beauvoir, cette rencontre est fondatrice. Elle admire la désinvolture et la liberté, l'esprit d'indépendance de Zaza, issu pourtant d'une famille très conservatrice. L'histoire est tragique, puisque Zaza meurt à 22 ans seulement, au moment où Simone de Beauvoir rencontre Jean-Paul Sartre. Elle restera toute sa vie hantée par cette mort prématurée. Elle n'écrira ce court roman autobiographique qu'en 1954, 25 ans plus tard. Mais pour des raisons un peu mystérieuses encore, elle ne publiera jamais Les Inséparables de son vivant.
Nicolas Caro, Nicolas que vous retrouverez tout à l'heure à 14h évidemment sur Europe 1 pour La Voix et Livre.
C'est quand même incroyable, hein. Les écrivains disent non, ne le publiez pas, on publie quand même.
La famille derrière le publie.
C'est exactement ce qui s'était passé avec Nabokov et je crois que c'est son petit-fils qui a publié The Original of Laura alors qu'il avait dit non, ne le publiez pas. C'est quand même incroyable ces familles. Bon, n'écrivez rien, comme ça on est sûr.
Tranquille.
8h14, à tout de suite pour l'invité, le professeur Michael Perromort. Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. À tout de suite.